Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est la grande table d'été. L'invention, on doit humblement le reconnaître, ne consiste pas à créer à partir du néant, mais à partir du chaos. Il faut en premier lieu disposer des matériaux. L'invention peut donner forme à des substances obscures et informes, mais elle ne peut donner forme à la substance elle-même. L'invention consiste à savoir profiter des possibilités offertes par un sujet et à pouvoir modeler et façonner les idées qu'il suggère. Voici ce qu'écrivait humblement Marie Shelley en 1831 dans la préface de son roman Frankenstein, publié en 1818, il y a aujourd'hui 200 ans. Aujourd'hui, c'est la jeune actrice américaine Ellie Fanning qui incarne cet écrivain devenu l'un des plus grands mythes littéraires mondiaux, tout comme la créature de Victor Frankenstein, faite de morceaux obscurs et informes. On enquête sur ce double mythe en première partie avec deux spécialistes de la vie et de l'œuvre de Shelley. En seconde partie, portrait de l'acrobate et circographe Marussia Diaz-Verbeck. Bonjour Gilles Ménégaldo.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de littérature anglo-saxonne et de cinéma à l'université de Poitiers. Et bonjour Alain Morvan.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 et spécialiste du 18e siècle et de la littérature gothique. Vous avez traduit Frankenstein, qu'on peut lire aux éditions Folio SF en 2015. Et vous êtes l'auteur de Marie Shelley et Frankenstein, itinéraire romanesque, aux presses universitaires de France.
Et en Pléiade, si je puis.
Et en Pléiade.
Permettre d'ajouter pour la traduction.
Est-ce qu'on peut dire que l'œuvre Frankenstein, le roman de Marie Shelley, a occulté, dans la réception en tout cas, a occulté la vie de cette femme ?
Tout à fait.
Alain Morvan.
Depuis les années, disons 1980, ce n'est plus exact, mais pendant de très longues décennies, on ne savait pas qui était Mary Shelley. Très souvent d'ailleurs, on l'appelait du nom de sa mère, Mary Wollstonecraft. Et il y a un phénomène très curieux d'occultation double. D'une part, parce que le monstre occulte son créateur. On finit d'ailleurs, comme chacun sait, par appeler, par erreur, une grave erreur d'ailleurs, le monstre Frankenstein, alors que Frankenstein, il faut le rappeler, c'est le nom du créateur, de ce jeune savant. Et de la même façon, le personnage de Mary Shelley, qui est un personnage extraordinairement attachant et d'une très très grande richesse du point de vue à la fois littéraire et biographique, est quelqu'un qui, pendant très très longtemps, a été totalement occulté par le titre de son œuvre majeure. Mais c'est pas tout à fait immérité en ce sens, ou injustifié en ce sens que Frankenstein est un chef-d'œuvre, c'est un mythe universel, et que comme tel, il a une certaine vocation à plonger dans l'ombre tout ce qui se trouve dans son périmètre.
Mais est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose de fascinant dans le fait que ce soit l'histoire d'une œuvre qui dépasse son créateur, et que ce soit ce qui soit véritablement arrivé à Marie Shelley ?
Oui, je crois qu'on peut présenter les choses comme ça. Le film d'ailleurs qui est sorti il y a quelques jours
Marie Shelley de Haïfa Al-Mansour.
Le film d'Haïfa Al-Mansour, oui. Ce film montre bien comment dans la vie de Mary Shelley, il y a de la naissance, parce qu'elle est née dans un milieu qui était intellectuellement extraordinairement privilégié et où la littérature faisait partie vraiment du biotope. Hein, c'était son biotope, livre, écrire, etc. Eh bien, tous les faisceaux biographiques de ces jeunes années conduisent à une sorte d'apothéose qui est précisément l'écriture de ce roman. Quelque anecdotique que puissent être par ailleurs les circonstances très précises dans lesquelles le projet du roman a été amené à prendre forme.
Gilles Ménégaldo, qu'est-ce que vous diriez, vous, sur ce mythe de Frankenstein?
Mais déjà, je voudrais revenir sur l'histoire de la phrase que vous citiez, parce que je crois que ça définit assez bien le projet de Marie Shelley, c'est-à-dire construire à partir, non pas du néant, mais du chaos, c'est-à-dire à partir de matériaux existants qu'elle a rassemblés. Bon, on sait que le sous-titre du roman, c'est le Prométhée moderne, donc déjà il y a cette référence au mythe de Prométhée. Il y a bien sûr le Paradis perdu de Milton que le monstre lit, enfin c'est parmi les lectures du monstre et auquel il va s'identifier au personnage de Satan, avec des nuances, puisque Satan lui au moins à la compagnie des démons, alors que lui c'est encore pire que Satan, sa situation est encore pire que Satan. Donc je pense que cette idée de construction à partir de fragments très divers et de genres très divers, on sait que c'est un livre dont l'hybridité générique est absolument foisonnante, hein. Pour certains, c'est comme Brian Aldiss, c'est l'ancêtre des romans de science-fiction, par exemple, avec une dimension de conjecturale. Pour d'autres, c'est encore un roman gothique, malgré tout. Enfin, en tout cas, il est très marqué par l'influence gothique. Pour d'autres, c'est un texte fantastique. Il y a des références au conte oriental, etc., etc., de contes philosophiques, récits de voyage que Marie Shelley elle-même et Shelley ont également publié, le récit de voyage en France et dans les Alpes en particulier. Donc, il y a toute cette dimension, effectivement, de couture de différents textes, de différentes influences. Et c'est pour ça qu'on a fait très souvent la comparaison entre le corps du monstre, qui est un corps couturé, et le corps de l'œuvre, qui est aussi un corps couturé à certains égards. Et Marie Shelley, d'ailleurs, parle elle-même de son livre comme My Hideous Progeny, c'est-à-dire ma hideuse progéniture, c'est-à-dire littéralement qu'elle fait un parallèle très très net entre le monstre et le roman. Bon, après, je ferai juste un parallèle rapide avec Dracula pour dire que Bram Stoker a également été occulté, lui aussi, par sa création. Et ça n'est que dans les années 80, à peu près, effectivement, qu'il y a un renouveau critique qui concerne aussi bien Dracula que Frankenstein, mais peut-être plus encore Frankenstein, pour la bonne raison que c'est un courant de critique féministe qui remet au goût du jour, en quelque sorte, Marie Shelley et son œuvre, avec des auteurs comme Mary Pouvet et quelques autres, où on essaye de tracer justement le lien entre la biographie de Marie Shelley et l'écriture de Frankenstein, et on montre qu'il y a effectivement une dimension très, très, très biographique, très autobiographique dans le roman, que l'on retrouve d'ailleurs non seulement dans Frankenstein, mais ça, M. Morvan pourrait le dire mieux que moi, mais dans les autres œuvres de Marie Shelley. Moi, j'ai relu The Last Man, par exemple, c'est frappant le Dernier Homme, pardon, qui est une sorte de récit post-apocalyptique qui, à certains égards, annonce des récits post-apocalyptiques actuels, puisqu'actuellement, il y a une vague de récits post-apocalyptiques, comme on le sait. Et c'est frappant de voir les références très très nombreuses à le personnage principal, par exemple, à certains moments, est décrit comme solitaire de la même manière que le monstre, et la fin du roman est une sorte de décalque de certaines pages de Frankenstein. Donc il y a vraiment une certaine cohérence dans l'imaginaire de Marie Shelley qui est absolument frappante.
Est-ce qu'on peut pas dire que Marie Shelley, elle défait aussi une certaine image, alors je vais dire romantique, peut-être de manière un peu rapide, mais du créateur qui justement crée ex nihilo quelque chose à partir de rien, alors qu'elle a fréquenté elle-même des romantiques comme Byron ou des gens comme ça?
Elle fréquente non seulement des romantiques, mais elle vit avec eux. Elle vit avec eux, son compagnon qui va devenir son mari.
Percy Shelley.
Fin 1816, Percy Shelley est quand même probablement l'étoile la plus brillante au firmament de ces choses, cette image un peu grandiloquente, au firmament de la littérature romantique, en tout cas de ce qu'il est convenu d'appeler la deuxième génération, c'est-à-dire Keats, Byron et Shelley. Et pour en revenir à ce film, ce qui est intéressant, c'est qu'il le montre très bien comment s'est agrégée cette petite phalange extraordinaire. Je crois que rarement dans l'histoire de l'humanité, il y a eu la présence d'une telle pléiade de talents rassemblés en quelques mètres, en l'espace de quelques mètres carrés. Et puis, il y a peut-être autre chose qu'il faut souligner à propos de cette création du livre, moi aussi je me laisse occulter par l'actualité. Il y a quelque chose qui me semble important et mis en lumière par le film d'Aïfa El Mansour, c'est précisément la difficulté qu'a l'idéologie à s'imposer comme telle. Et à cet égard, il y a un parallèle à construire entre la vie de Mary Shelley et celle de sa mère. L'une comme l'autre se trouve face au même hiatus qui oppose la passion, le sentiment personnel auquel on ne peut pas résister, et puis une idéologie. Il se trouve que Mary Wollstonecraft, la mère de Mary Shelley, a fini par épouser le père, William Godwin, qui était un philosophe anarchiste, alors qu'elle-même était une sorte de pionnière de ce qu'on appellera plus tard le féminisme. Et ces deux personnes qui exécraient l'idée même de mariage se sont mis à l'accepter et à se marier du jour où Mary Wollstonecraft s'est retrouvée enceinte. Donc l'exigence personnelle, l'exigence biographique ne peut rien contre l'idéologie. Et c'est un peu ce qui se passe dans le cas de Mary Shelley, où l'on voit justement comment le parti pris en faveur de l'amour libre que l'on fait, porté par Shelley, son compagnon, se heurte à quelque chose de très profond en elle, qui est pourtant très nourri de pensées anarchisantes. Et ce quelque chose de très profond, c'est tout simplement un amour, et un amour qu'elle voudrait sans partage vis-à-vis de Shelley. Donc, cette idée de ménage à trois, ou à quatre, ou à cinq, est quelque chose qui, quelle que soit son idéologie de départ, lui est difficilement supportable. Et ça, cette tension fondamentale explique peut-être un certain nombre de choses qui se produisent dans son livre.
Pas juste Gilles rajouter Ménégaldo. Quelque chose par rapport à ça. Ça n'est pas la première mise en scène cinématographique de Mary Shelley, de de sa rencontre avec, bien sûr, Byron, au bord du lac de Genève, enfin, d'une villa voisine de la villa de Diodati, d'ailleurs, qu'ils avaient louée. Il y a une première incarnation qui est dans La fiancée de Frankenstein, donc où il y a un prologue qui est consacré à cela, et où l'on voit effectivement, on pénètre par une caméra, donc en travelling avant, dans un château, au contraire, enfin, alors que l'orage gronde à l'extérieur, à l'intérieur, tout est calme, les chiens se promènent, Mary Shelley est assise entre Byron et Shelley, avec une connotation d'ailleurs homo-érotique assez évidente dans le film. Et à ce moment-là, Byron dit « Mais vous, femme si fragile, vous avez pu écrire ce roman », ce qu'on avait reproché à l'époque à Mary Shelley, effectivement, disant qu'une femme ne pouvait pas écrire de telles horreurs. Enfin bon, c'est une des raisons pour lesquelles le texte est publié anonymement la première fois. Et en fait... on s'aperçoit que à un moment donné, Byron va dire « Mais vous avez pu écrire ces choses-là » et on voit à ce moment les images du premier film, le James Whale de 1931, et en fait, on a en quelque sorte une réappropriation par James Whale de l'héritage de Mary Shelley, donc c'est tout à fait intéressant. Et puis deux autres exemples rapides. Alors, un exemple extrêmement kitsch et exacerbé, c'est le Gothic de Ken Russell, mais on retrouve la même idée de la réticence de Mary Shelley à avoir justement une relation extra-conjugale, en dehors de son couple avec Shelley, alors que lui l'y encourage. Donc même là, Julian Sands, Shelley, n'arrive pas finalement à convaincre Mary Shelley qu'elle doit se livrer à cette expérience érotique. Bon, c'est un film complètement déjanté, qui correspond à l'époque aussi, dans les années 80, c'est à peu près la même époque de Rocky Horror Picture Show, hein, qui est une sorte de film culte. Et puis une autre, beaucoup moins connue, qui s'appelle The Haunted Summer, littéralement l'été hanté, où on a, au contraire, avec des acteurs tout à fait passionnants, bon, enfin, je passe un peu, et ce film a été complètement occulté, une recréation qui est assez proche de celle d'Alpha El Mansour, justement.
Je vous propose qu'on écoute la bande-annonce du film d'Alpha El Mansour, Mary Shelley.
We've been invited to Geneva by Lord Byron.
Would you like to join me in the parlor, Miss Goldwyn?
I have no quarrel with you becoming lovers.
Do you wish to be with someone else?
I no longer see the world and its works as they before appeared to me, and men appear to me as monsters.
We are each to write a ghost story. It's a competition.
What's wrong with you? Don't you recognize Victor Frankenstein?
This is no ghost story.
It chilled me to the bone.
You must get your story published, Mary.
Curious subject matter for a young lady.
Are you suggesting the work belongs to Mr. Shelley?
It is my story.
And you dare question a woman's ability to experience loss. Betrayal. Death.
My choice has made me who I am, and I regret.
On entend la bande-annonce du film de Haifa El Mansour, Marie Chalet, qui est sorti sur les écrans mercredi dernier. Est-ce que, historiquement, c'est un film qui est fidèle à ce qui s'est réellement passé au cours de la vie de Marie Chalet?
Oui et non. Oui et non. Par exemple, la genèse de la relation entre Mary et Percy Shelley est vraiment présentée d'une manière assez elliptique. Il faut savoir en effet que avant l'escapade à Genève sur les bords du Léman, qui date de 1816 et au cours de laquelle on va trouver les circonstances qui vont permettre la création de Frankenstein, et il y avait eu 2 ans auparavant, alors que Mary, qui était... vous voyez, quand je parle de choc entre l'idéologie et la passion, c'est au sens où cette jeune femme qui était extrêmement libre sexuellement, qui n'avait aucune espèce de compunction à s'approprier un homme marié, père de famille, tout jeune, mais marié, père de famille, elle aura beaucoup plus de réserve quand il s'agira d'entendre Percy Shelley dire que ben il aurait peut-être envie d'aller voir en plus de Mary un tout petit peu ailleurs s'il n'y a pas des fleurs à butiner, excusez-moi. Voilà. Alors pour en revenir à cette question que vous me posiez,
historiquement, est-ce que le film suit la vraie vie de Marie Chalet?
Il y a toute une série de choses qui ne collent pas, mais je dirais que c'est de l'ordre du détail. C'est de l'ordre du détail, et ce qui, finalement, est majeur, à savoir le côté, je dirais, compulsif, personnel, de l'acte par lequel Mary se mettra un beau jour de juillet à composer Frankenstein est quelque chose qui ne relève pas véritablement de l'anecdote. On dit souvent, et je crois qu'il est important...
Parce qu'on raconte souvent que la rédaction de l'histoire de Frankenstein, c'est une histoire de fantôme. Enfin, c'est une sorte de challenge entre Lord Byron, Percy Shelley et Mary Shelley. On va se raconter des histoires de fantômes.
Ça, c'est exact. Mais il faut bien voir que, au-delà de cet aspect très, très... conjoncturel, à savoir, il fait très mauvais, nous ne savons pas que faire, nous nous ennuyons, donc, moi, Lord Byron, je vous dis, faisons ensemble un concours d'histoires effrayantes, ghost stories, effectivement, comme il dit, il y a quelque chose d'infiniment plus profond que Mary porte en elle depuis des années, et je trouve que c'est un peu réducteur de dire, bienheureux mauvais temps, bienheureuse intempérie de l'été 1816, sans ça, on n'aurait pas eu Frankenstein. Mais si Frankenstein serait arrivé différemment,
elle le portait en elle,
nous l'aurions eu. Ce n'est pas une affaire de volcan indonésien qui avait craché des fumées énormes, d'ailleurs, l'année précédente, en 1815, et qui effectivement est responsable d'un climat détestable lors de cet été 1816. Il est évident que même sans le volcan Tambora en question, il y aurait eu l'écriture de Frankenstein. C'est quelque chose, oui, comme vous dites, elle le portait en elle. Et ça, je crois que le film le montre bien. Donc, des inexactitudes ponctuelles, un choix concernant la Villa Diodati qui me semble un peu surprenant, parce que je crois qu'en vérité, la Villa Diodati...
Qui est le lieu de rédaction.
Où ils se réunissaient, tous ces jeunes gens, est un endroit tout à fait charmant, féerique, alors que les réalisateurs du film ont choisi de tourner en extérieur un manoir qui, finalement, n'évoque rien de très spécial. Mais quant au fond, quant à la démarche du film, oui, je crois qu'il est fidèle à ce que l'on peut distinguer quand on s'attache vraiment en profondeur à la démarche intérieure de Marie Chalet.
Gilles Ménégaldo.
Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Alain Morvan. Je pense qu'il me semble, parmi les infidélités, il me semble que Chalet a rencontré Marie Chalet, non pas en Écosse, mais...
Il l'a rencontré en 1812.
En 1812, donc invité par Godwin, qui d'ailleurs comptait beaucoup sur son argent. Enfin, il y a aussi cette dimension financière qui est assez intéressante. Moi, je trouve que le film est quand même un peu académique, on va dire, peut-être plus que son premier long métrage qui a été très bien reçu par la critique. Mais elle dresse un parallèle intéressant, justement, entre la situation des femmes en Arabie Saoudite et la situation des femmes victoriennes au 19e siècle, avec le cas de Marie Chalet. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Par contre, moi j'aime moins l'interprétation. Enfin, Ella Fanning est très bien, mais le personnage, l'acteur qui interprète Shelley, par exemple, je trouve est un petit peu faible. Enfin, il manque un petit peu de. Enfin, il n'a pas le, le, on va dire, le charisme sans doute du poète Shelley. Quant à Byron, il est carrément camp, donc de manière excessive, et je pense que il aurait pu être un peu plus nuancé, comme il est parfois dans certaines adaptations. Et puis peut-être que la musique est un peu envahissante. Et enfin, pour pas trop, parce que ce film reste une tentative tout à fait intéressante pour retranscrire effectivement cette expérience, je pense que la musique est un peu trop envahissante et un peu trop répétitive par rapport à l'action, quoi. Donc, alors après, c'est vrai qu'il y a un climat romantique exacerbé qu'on peut le justifier ainsi, mais personnellement, ça m'a un petit peu gêné de ne sentir constamment la musique, alors que la musique devrait savoir se faire oublier normalement.
Et c'est surtout un film qui met l'accent sur le fait que Marie Shelley est une femme, et enfin sur le geste de la femme qui écrit.
La femme qui écrit, oui, ça, bien sûr. Oui,
tout à fait. Et ça, par rapport aux interprétations qu'on a pu faire dans les années 70, aux interprétations féministes, comment vous voyez en 2018 cette vision de Marie Shelley, de Haifa al-Mansour?
Ben justement, je crois que Haifa al-Mansour redonne en quelque sorte son identité d'écrivain à Marie Shelley. Alors même, c'est très compliqué de traduire l'activité d'écrivain au cinéma. Enfin, je veux dire, bon, c'est difficile de montrer quelqu'un sur écrivain,
oui, c'est souvent ennuyeux,
avec une plume d'oie, etc. Enfin, c'est un côté extrêmement cliché, effectivement, que ce soit d'ailleurs avec la plume d'oie ou l'ordinateur. Mais par contre, transcrire par le biais des sensations, des émotions de Marie Shelley, quelque chose qu'elle portait en elle, et c'est pas pour rien qu'elle utilise la métaphore de l'enfant à propos de son propre roman. Effectivement, quelque chose qui est là depuis très longtemps, qui a été stimulé aussi par toutes ces années passées en Écosse, au contact de la nature, etc., qui stimule son imaginaire. Et donc, évidemment, toutes les lectures qu'elle a faites, mais pas seulement lectures, et ça, Haifa al-Mansour le montre bien aussi, les expériences scientifiques. Elle assiste à un moment donné à un spectacle proche de ce que faisait Galvani, hein, Luigi Galvani, c'est-à-dire l'animation d'une grenouille avec l'électricité, qui devient une sorte de spectacle, effectivement. Mais on sait que Shelley s'intéresse lui-même à ses expériences. On le voit d'ailleurs pratiquer une expérience en chambre close, en quelque sorte. Et pour revenir à l'idée de la science, la représentation de la science, elle est essentiellement au cinéma. Je veux dire, dans le roman, il y a effectivement très très peu de références. Je crois que Frankenstein dit j'élaborais mon monstre dans une petite chambre, un grenier, littéralement.
On a assez peu d'indications précises sur comment matériellement il fait pour
indication précise,
créer,
c'est simplement une étincelle, ce qui correspond à une théorie scientifique de l'époque, effectivement. Bon, mais c'est le cinéma qui donne une dimension spectaculaire justement au laboratoire de Frankenstein, avec un grand renfort d'effets spéciaux, de générateurs, de piles électriques, etc. Avec des effets spéciaux d'un grand spécialiste qui s'appelle Kenneth Strickfaden, donc qu'on va retrouver dans les deux versions. Et c'est ça qui donne cette dimension, alors intéressante parce qu'en même temps c'est une tour gothique, donc on a une tour gothique et à l'intérieur on a tous les instruments de la modernité scientifique, et c'est ce qui a fait avec bien sûr le fameux masque de Boris Karloff, de Jack Pierce, ce qui a fait la notoriété de ce film, et le fait qu'on ne peut plus parler de la créature de Frankenstein, et en partie de la créature, sans parler de Boris Karloff. Par contre, ce qui est intéressant aussi, on n'en a pas encore parlé, mais je voudrais quand même en faire une brève allusion. Il y a un deuxième cycle de films dans les années 60, enfin 1957, c'est le premier, The Curse of Frankenstein, La Malédiction de Frankenstein, où là, au contraire, c'est le baron qui retrouve, enfin c'est le baron Frankenstein, c'est-à-dire interprété par Peter Cushing, qui retrouve au contraire, qui devient le personnage principal, c'est-à-dire c'est lui qui reste constant pendant les 7 adaptations donc qu'il va y avoir au cours de cette décennie-là, notamment 5 par Terence Fisher, donc un des grands réalisateurs de la Hammer, et c'est lui qui demeure la constante, en quelque sorte, dans cette monomanie, de cette obsession monomaniaque de construire une créature. Et le personnage du savant vieillit avec l'acteur, et ça donne une dimension extrêmement pathétique, voire tragique, au personnage. Alors qu'au contraire, le monstre change sans arrêt. Donc c'est exactement l'inverse de ce qui se passe dans les années 30. Dans les années 30, c'est le monstre qui est le héros, en quelque sorte, et qui reste incarné par Boris Karloff à quelques exceptions près, puisqu'après il va être interprété par Bela Lugosi, à un moment donné même. Alors que dans les années 60, c'est vraiment Peter Cushing qui incarne littéralement jusqu'à la mort ce personnage.
Une des particularités de Marie Shelley aussi, c'est que c'est quelqu'un, je le disais en début d'émission, qui a écrit plusieurs préfaces à son roman Frankenstein, où elle explique les conditions de rédaction. C'est quelqu'un qui a aussi tenu un journal, c'est quelqu'un qui a énormément documenté sa vie. Et c'est ça aussi qui... Est-ce que ça a contribué à créer un mythe autour de cet écrivain-là, vous pensez, Alain Morvan?
Alors, ça devrait, ça aurait dû. Mais à notre époque, en 2018, même si, grâce notamment, mais pas exclusivement, à des travaux universitaires, grâce à des relais qui se sont manifestés par des séries télévisées, par les films dont parlait Gilles Ménégaldo, etc., il est vrai que... dans l'image qu'on a de Mary Shelley, Frankenstein continue à se tailler la part du lion. Il n'en demeure pas moins que c'est un écrivain d'une prolixité extraordinaire, une prolixité absolument extraordinaire, qui très jeune a commencé. Elle était toute enfant que son père, qui était en même temps éditeur, parce qu'il fallait bien vivre, son père a édité un poème tout à fait charmant qu'elle avait composé. Et puis très jeune, et là on retrouve aussi un peu la composante du statut de la femme, elle écrit, c'est même son premier vrai livre publié, elle écrit avec son futur mari Shelley, elle écrit un compte-rendu tout à fait étonnant, tout à fait charmant, et écrit à deux mains, avec une authentification de qui est l'auteur à chaque fois que l'on change de chapitre. Elle écrit un compte-rendu du voyage qu'ils avaient effectué en 1814, et qui avait comme destination ultime la Suisse du lac des Quatre Cantons, le serment de Guillaume Tell, Uri, etc. C'est par ailleurs quelqu'un... alors, une diariste très très attachante, parce que on sent bien que tout son journal s'organise en particulier à partir de 1822 autour de la figure de son mari. Il faut rappeler en effet que Percy Shelley, grand amateur de navigation, il s'était d'ailleurs un tout petit peu livré sur le Léman lors du séjour à la Villa Diodati quand le temps le permettait, mais Shelley meurt en juillet 1822 au large des côtes italiennes. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental, puisque toute la vie ultérieure de Mary Shelley sera une vie non pas placée sous le signe du deuil, mais sous le signe de la solitude, et la façon de pouvoir pallier ce sentiment de solitude. Et on retrouve dans les figures importantes de ses romans, parce qu'elle en a écrit plusieurs, elle a écrit en tout 6 ou 7 romans, dont, n'est-ce pas, le dernier homme auquel il était fait allusion tout à l'heure, on voit, en particulier au travers des figures masculines, on voit cette recherche d'une création, de retrouvailles littéraires avec le personnage de Percy Shelley, qui était vécu par elle comme un héros, et un héros, pas vraiment un héros, et là je rejoindrai effectivement ce que disait tout à l'heure Gilles Ménégaldo concernant l'interprétation qu'on donne dans le film du personnage de Shelley, je parle de Percy Shelley, c'était un héros qui n'était pas tant... alors il était bien sûr très porté sur la sexualité, c'était un esprit absolument génial, mais en même temps, c'était, à la différence de Keats, un autre poète de la même génération, dont chacun sait à quel point il était axé sur les sensations, sur l'expérience sensible, le toucher, l'odeur, le goût. Pensez à l'ode à l'automne de Keats. Lui, Shelley, est quelqu'un... Sa femme dira d'ailleurs plus tard, il semblait venir d'une autre sphère. C'était quelqu'un de totalement immatériel, une espèce de pur esprit qui n'avait que très peu de prise sur le monde réel. Le monde des idées, oui. Le monde des sentiments, de la passion, merveilleusement suggéré dans ses poèmes. Mais le monde de l'appréhension réelle... quelque chose de beaucoup plus ténu, même par rapport à sa femme Mary. Et alors, on retrouve cette espèce de recherche, de succès d'années de Percy au travers des personnages de ses romans. Mais elle n'a pas fait que ça, elle a fait aussi... ça, on ne le dit pas assez. Si Shelley est devenu un poète connu, c'est grâce à sa femme. Il y a une grande différence entre Byron et Shelley.
Mais oui,
parce que par exemple, vous les prenez tous les deux. Voilà, vous les prenez tous les deux dans le moment Diodati, le moment dont il est question dans le film 1816. Voilà, débarque à Colonie, à la Villa Diodati, un Byron déjà auréolé d'une gloire très sulfureuse, très très sulfureuse, parce que c'était un mauvais sujet, fastueux, et
libertin.
Puis voilà, et puis à certains égards très très mauvais garçon. Et puis surtout, quelqu'un qui avait su faire parler de lui, dont les œuvres étaient déjà très connues. En revanche, Shelley, assez peu connu. Il meurt jeune et il faudra un travail d'édition considérable, menée par son épouse, dans des circonstances difficiles, parce qu'il y avait le père de Shelley qui continuait à tenir les cordons de la bourse et qui lui interdisait, au moment même où elle mettait sur le papier toutes les œuvres de son mari, auxquelles elle avait un accès direct, qui lui interdisait formellement de parler de lui et d'écrire une biographie de Shelley. Elle a quand même réussi à contourner cet interdit-là, par le biais notamment des notes qu'elle a pu rédiger pour tel ou tel de ses poèmes. Mais il est clair que s'il n'y avait pas eu ce travail d'édition, de mise à jour, de mise honnête des œuvres de Shelley, Shelley, pendant la plus grande partie du 19e et la première moitié du 20e siècle, aurait finalement été assez peu connu.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il ne faut pas oublier effectivement que Marie Shelley a publié l'œuvre de Shelley, bon, avec des complications. Et ce qui est frappant, c'est effectivement que Shelley et Byron, d'ailleurs, revivent dans toutes les créations romanesques de Marie Shelley, sous des formes diverses. Souvent idéalisée, mais pas totalement non plus. Elle montre la complexité du personnage, par exemple, qui correspond à Byron dans The Last Man. Elle montre et on voit très très bien que les portraits physiques et les portraits psychologiques qu'elle dresse de ces deux héros, de ces héros masculins, correspondent tout à fait à certaines caractéristiques de Shelley et Byron. Donc en fait, elle n'a cessé d'être hantée en quelque sorte par ces personnages qu'elle a rencontrés, bien sûr, Shelley en particulier et Byron ensuite. Qui effectivement à l'époque avait une réputation très, très sulfureuse et qu'on montre d'ailleurs souvent dans les films, hein, et notamment dans celui de Haïfan Mansour aussi, même si ça reste très très ténu, n'oublions pas que c'est un film hollywoodien.
Ce serait donc le seul cas dans la littérature où la notoriété d'une femme écrivain l'emporte sur celle de son mari, à votre avis?
À ma connaissance, oui, je dirais.
Il y a peut-être d'autres exemples. Mary Shelley plus célèbre que son mari, non, parce que je n'irai pas jusque-là, parce que grâce notamment à elle, l'œuvre de Shelley est connue. Et Shelley, nous avons tous des souvenirs d'étudiants, nous avons ou d'élèves de lycée à l'époque où on faisait encore de la littérature étrangère au lycée. Nous savons très bien que nous avons connu le nom de Percy Shelley avant celui de Mary Shelley, en raison de ce phénomène d'occultation dont nous parlions tout à l'heure. Mais même à l'heure actuelle, non, je pense que l'un et l'autre ont droit à leur part de gloire pour des raisons diverses et surtout qui ne peuvent pas être séparés. Je pense que leur expérience commune, qui est marquée au sceau de la tragédie, a fait que l'un et l'autre méritent d'être conjointement alignés dans notre panthéon littéraire commun.
Il me semble que je mettrai un petit bémol. Je pense que là, je suis d'accord tout à fait avec ce que vous venez de dire, mais il me semble que Marie Shelley a créé un mythe moderne au sens cartésien.
Ce que n'a pas fait Shelley.
Ce qui explique la prolifération d'œuvres de réécriture de l'œuvre de Marie Shelley, ce qui n'est pas le cas.
Alors voilà, mais toujours un peu dans l'ombre de son frère. C'est vrai qu'elle a. Vous citiez tout à l'heure la Genèse, Prométhée. Il y a le mythe de Faust aussi. Il y a le mythe hébraïque du golem.
Il y a Voltaire, il y a Rousseau, il y a
voilà. Et tout ça. Elle les agrège et elle subsume par un mythe nouveau et universel.
On peut lire ce mythe dans votre traduction Alain Morvan aux éditions Folio SF. La traduction était publiée en 2015.
En
merci à tous les deux. Et en Pléiade, pardon. Merci à vous aussi, Gilles Ménégaldo. Et on peut voir sur les écrans Marie Shelley, le film d'Haïfa El Mansour qui est sorti mercredi dernier. Rising by now. Écoutez France Culture, il est 13h21, on vient d'écouter le titre Catherine in the Dunes de Adrian Crowley, pardon, sorti sur l'album Dark Eyed Messenger, sorti cette année sur le label Chemical Underground.
France Culture, la grande table d'été, par Romain de Bec de Lièvre.
La piste est un rond, un cercle qui fait penser à un disque de vinyle. Au-dessus de lui, une corde est suspendue, l'acrobate entre en scène, elle porte des paroles écrites sur des feuilles blanches qu'elle égrène. Voici un moyen de plus de vous dire quelque chose. Elle remixe des paroles venues de partout, de la radio, de la musique pop, des paroles d'experts ou des paroles du commun. Sur la piste en rond se déploient les moyens propres au cirque pour explorer la parole et ses limites. Bonjour Maroussia Diaz-Verbeck.
Bonjour.
L'acrobate, c'est vous. Vous êtes aussi circographe. On reviendra plus tard sur ce terme. Et votre spectacle Circus Remix sera présenté au festival La Route du Cirque, cirque avec un S, les 22 et 24 août prochains. Et puis, il sera en tournée en France à l'automne. À l'origine, votre discipline de cirque, c'est une de vos disciplines de cirque, c'est la corde volante. Est-ce que c'est une discipline que vous avez choisie? Comment elle est arrivée à vous?
Oui, alors bien sûr, je l'ai choisie. C'est en fait, pour être plus précis, c'est un mélange entre la corde souple et la corde volante. Donc c'est une corde qui est suspendue par les deux côtés, qui forme un U. Et du coup, je fais une double technique dessus. À la fois, je marche en équilibre et je fais tout un tas de choses dessus en équilibre. Et aussi, je peux effectivement, ce qu'on appelle corde volante, c'est le ballant en fait. Et me balancer, faire des figures de voltige en fait, au point, à chaque point léger. Je l'ai choisi à l'école en fait, à l'école du cirque. On essaye plein de choses différentes et puis à un moment on fait un choix et j'ai fait un choix qui me permettait de continuer à ne pas faire de choix entre ces deux disciplines là et mélanger en fait ces deux énergies qui sont assez différentes, contradictoires, mais voilà, pouvoir les mêler en fait et passer de l'une à l'autre rapidement.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour vous, ce travail avec la corde?
Déjà il est personnel, c'était ça qui était intéressant, c'était d'explorer quelque chose que que j'avais jamais vu, parce que dans le cirque il y a beaucoup d'agrès classiques qui existent sous cette forme depuis on sait pas quand, mais depuis longtemps,
depuis le début du cirque. On sait pas quand,
voilà, comme le trapèze par exemple, le fil tendu. Et forcément, il y a une sorte de figure classique imposée. Donc, moi, c'était une manière de créer des espaces où il y avait d'autres choses qui allaient sortir nécessairement. Donc, au début, c'était vraiment pas évident, et au final, ça a permis de découvrir des nouvelles choses en fait. Donc, c'était ça qui m'intéressait. Et puis déjà en fait le contraste entre ce que je disais, là, deux énergies différentes, donc l'équilibre c'est vachement intérieur, faut vraiment calmer quelque chose en soi
pour arriver réussir à tenir sur la corde,
à tenir, voilà. Et au contraire le ballon, faut envoyer de l'énergie et au début c'était une des choses les plus difficiles, réussir à passer de ces deux états de corps qui sont très différents et en fait en allant après dans le travail sur la composition du cirque, je me suis aperçue que ce rapport entre des énergies différentes, les unes à la suite des autres, était vraiment propre au cirque. Enfin, les numéros, ils s'enchaînent avec des techniques différentes. Donc, même à l'intérieur de mon agrès, je pouvais déjà recréer au moins deux numéros très différents. Je ne sais pas si c'est très clair, mais...
C'est deux forces différentes, ou en tout cas, deux énergies différentes qui se retrouvent dans plusieurs numéros.
le principe d'avoir des disciplines différentes, c'est vraiment voilà un programme de cirque classique. C'est on enchaîne voilà un numéro de trapèze, puis de la bascule coréenne, puis. Et là, avec un même objet qui est cette corde qui change pas de disposition, je peux déjà faire deux numéros, voilà différents, l'équilibre, puis après le ballon. Donc ça me permettait d'avoir déjà voilà deux numéros. Avec un seul objet.
Est-ce que vous diriez que votre pratique, là, depuis que vous faites des spectacles, notamment avec le collectif Ivan Mosjoukin, Not on the Circus, et là, ce projet Circus Remix, c'est d'essayer de casser cette monotonie des numéros? Ce serait ça?
Peut-être pas casser la monotonie, mais en tout cas, réussir à trouver comment, en quoi ça peut être intéressant qu'il y ait des numéros. C'est-à-dire que...
Retrouver pourquoi c'est intéressant de faire des numéros.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de génial là-dedans? C'est une de mes questions repères, quoi. Et c'est vrai que depuis Mosjoukin, on a fait ce trajet-là. Au début, on voulait faire un spectacle qui était l'inverse de ce qu'on a fait. C'est-à-dire, on voulait faire... Donc, pour expliquer, le spectacle Not on the Circus, c'était 80 notes les unes à la suite des autres sur un rythme assez, assez rapide, assez vif. Avec, voilà, ça passait du coq à l'âne très rapidement, des séquences de 30 secondes. Et à la base, on voulait faire l'inverse. On voulait faire un spectacle qui part d'un point A, qui va à un point B, où il y a une évolution linéaire, etc. Et en allant assez loin dans cette recherche, enfin, en tout cas, moi, j'ai eu la sensation de perdre, en fait, le cirque. Et du coup... ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, à force d'arrêter de faire des choses de cirque, on est en train de plus faire du cirque du tout. Donc on fait des situations théâtrales, acrobatiques, mais en fait, peut-être qu'on perd quelque chose d'essentiel. Pour moi, en tout cas, le cirque me manque. À partir de ce moment-là, je me suis posé la question, ben, du coup, si le cirque me manque, qu'est-ce qui me manque? Et donc, qu'est-ce qu'il y a du cirque qui me manque? Et du coup, c'est quoi le cirque? Et là, ça a été vraiment le virage à 180 degrés pour aller retourner au cirque classique, s'intéresser à voilà, est-ce que la composition en numéro, le fait qu'il faille monter, démonter les agrès, enfin toutes ces choses-là qui dans le cirque contemporain peut être vues comme des contraintes assez lourdes et pas très intéressantes artistiquement. En quoi ça peut être intéressant, en quoi ça peut être justement génial, en quoi c'est une composition particulière. Donc c'est plus effectivement peut-être pas casser les numéros, mais voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans dans les spécificités du cirque. Ouais.
Ou le remixer.
Voilà, exactement.
On écoute un extrait de Circus Remix, votre spectacle.
Attention.
Attention.
5, 4, 3, 2, 1.
Good evening.
Buonasera.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans
Circus Remix.
Ce que vous allez voir
constitue un début.
Ou presque.
Ce qui explique bien des naïvetés et des gaucheries, sans parler de son caractère, disons, éruptif. Il y a quelque chose d'enivrant pour un jeune cœur. À posséder une fois.
Même si c'est
pour une chose aussi dérisoire
que le cirque.
Alors, pour lancer le spectacle d'une façon, si je puis dire, naïvement joyeuse, n'est-ce pas?
On vous propose ce plan.
Convoquer la formule ancestrale.
Place au cirque!
Mesdames et messieurs,
chers inconnus,
la radiodiffusion française piratée
par le troisième cirque va vous présenter
un programme avec
deux parties.
Avec
dans l'ordre de l'entrée en piste, le jazz,
des tas de questions, des tas d'interrogations,
la voltige à l'indienne,
des tas de problèmes à résoudre.
Ces espèces de trucs noirs qui sont un tas de choses
avec lesquelles
on vit
ces énigmes que nous présente la vie une fois qu'on l'a ouverte.
Marussia Diaz-Verbeck, on écoute un extrait de la bande sonore de votre spectacle Circus Remix, une bande sonore assez élaborée où vous avez opéré tout un montage dans une sélection d'archives. Pourquoi il a fallu en passer par les archives pour vous, pour ce spectacle-là?
Alors déjà, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais intuitivement depuis longtemps. Enfin, peut-être pas des archives, mais des extraits. Au début, c'était des extraits de aussi de films, parce que je crois que j'ai un rapport très fort avec les mots. Enfin, voilà, avec le fait de réfléchir, de penser. Et par contre, le fait de parler, c'est-à-dire de les dire, de dire les mots avec la voix, n'a jamais été naturel en fait à l'intérieur de ma pratique du cirque. Et petit à petit, en fait, en m'intéressant à l'histoire du cirque, j'ai appris que la parole avait été interdite au cirque par deux décrets, donc 1806 et 1807 pour être exact.
Et pourquoi ?
Pourquoi ? Alors, donc le cirque est né vers 1760. Enfin, après, bon, il y a plusieurs théories, mais le cirque moderne avec la piste, les chevaux, etc. Et assez vite, il a intégré plein de numéros, y compris en fait des pièces de théâtre, des ballets, etc. Donc, c'était des programmes en fait très fournis. Et ça a eu beaucoup de succès. Et pour en fait limiter cette concurrence par rapport aux théâtres royaux, la parole a été interdite au cirque pour pas concurrencer en fait les spectacles de théâtre, puis aussi pour pouvoir peut-être un peu contrôler voilà ce qui se dit.
En tout cas empêcher oui que voilà. Rien ne se dise.
Enfin, moi voilà et en tout cas le canal principal du texte était réservé aux théâtres privilégiés en fait. Ça c'était en France et en Angleterre, donc le cirque après s'est construit à la négative en fait de ça et c'est super intéressant parce qu'en fait donc il y a rien qui a dit jamais à part récemment avec la révolution contemporaine du cirque, mais il y a rien qui a dit le cirque c'est ça. Ça doit être ça.
Ça n'a jamais été défini positivement.
Voilà, il n'y a pas eu d'académie qui a dit voilà, alors les codes sont, il faut respecter telle chose, telle chose. Mais par contre, il y a eu une interdiction, donc ça peut être tout sauf du théâtre. Donc, sauf voilà le terrain de la parole et moi avant de le savoir, c'est quelque chose que j'ai fait spontanément et du coup en le sachant, je m'y suis effectivement intéressée et dans l'histoire il y a naturellement par rapport à une contrainte, il y a tout un jeu de détournement, c'est-à-dire parler quand même, enfin voilà, faire passer des mots et des idées quand même.
La question, ce serait comment parler quand même malgré l'interdiction de la parole.
Exactement. Et en fait, les pancartes, par exemple, étaient déjà présentes à cette époque. Enfin, il y avait plein de ce qu'on appelle le grommelot, c'est-à-dire le fait de faire des sons comme si on parlait, mais de rien dire d'intelligible. Vient à ce moment-là aussi, par exemple, le fait d'avoir un sifflet, d'avoir des intonations, mais que ce soit pas de la parole. Donc, il y a tout un jeu, en fait, pour réussir à utiliser les mots ou l'expression et le fait en fait voilà d'utiliser des mots enregistrés, c'était une manière de poursuivre ce détournement de la parole, ce jeu avec cette interdiction qui évidemment n'existe plus aujourd'hui, mais il y a quelque chose qu'on peut, enfin moi en tout cas que je ressens dans la pratique du cirque, c'est-à-dire que la parole, enfin elle est problématique, elle est pas naturelle quoi. Sur scène, sur une corde par exemple, etc. Voilà, et dans Mojoukine, j'avais beaucoup travaillé sur le fait de mettre de la parole enregistrée sur les numéros de cirque, donc en même temps.
Diffuser une archive pendant qu'il y a un numéro
voilà,
de cirque.
Pendant qu'il y a un numéro de cirque, donc ça crée un décalage par rapport à ce qui se fait en direct, quoi. Et là, vu que je me suis intéressée beaucoup au code du cirque classique. Dans le cirque classique, au contraire, il y a Monsieur Loyal, en fait, qui présente les numéros. Donc, il y a une alternance entre le texte et l'image. Il n'y a pas de simultanéité, en fait, entre le texte et l'image. Il y a Monsieur Loyal qui parle et il n'y a pas grand-chose d'intéressant qui se passe visuellement. Et puis ensuite, il y a un numéro qui est uniquement visuel. Donc, j'avais vraiment envie de travailler sur ça, pareil, pour comprendre qu'est-ce qui... qu'est-ce que ça peut permettre, en fait, au niveau expressif? Qu'est-ce que ça crée en soi, en fait, de préparer le regard, en fait? Parce que c'est ça qui se passe, ou réagir à ce qu'on a vu avant. Donc voilà. Donc je me suis à la fois intéressée au texte de Monsieur Loyal, à quoi il sert, etc. Et j'ai plongé à fond dans faire un texte à partir uniquement d'archives, ouais.
Je pense à un numéro en particulier dans ce spectacle-là, c'est un numéro assez impressionnant où vous êtes sur la corde, donc votre discipline classique, et tout le but du jeu, c'est de rapprocher un micro qui est suspendu au plafond à la parole de Françoise Héritier, une archive de France Culture, je crois, qui part d'un téléphone qui est sur un coussin.
Ouais.
Et je me suis dit, là, au-delà de l'acrobatie qui est assez impressionnante, il y a quelque chose très simple dans le geste que vous faites là, par l'acrobatie, c'est juste de donner la parole. Enfin, en tout cas, de rétablir le contact.
Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose de cet ordre-là?
Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de le voir comme ça. C'est vrai qu'il y a un micro, donc, qui est effectivement, comme vous dites, qui est suspendu. Et je peux moi-même, effectivement, m'y surprendre, mais je ne vais jamais... parler. Et c'est vrai que moi, je trouve intéressant que ce micro, il soit là et que ce soit jamais moi qui parle, mais pourtant, voilà, je m'en sers après dans un deuxième numéro comme vraiment d'un agresse, c'est-à-dire je monte dessus, on entend le son, etc. Et oui, il y a Françoise Héritier dans ce petit téléphone, dictaphone. Et par rapport à Françoise Héritier, donc c'est une anthropologue qui a énormément travaillé sur le concept de valence différentielle des sexes, ou en tout cas de tentative pour donner des explications par rapport à la hiérarchisation des sexes. Et c'était aussi intéressant de moi en tant que femme d'essayer de faire entendre cette parole. Voilà, sans tout à fait y arriver, sans avoir conscience de ce que ça va dire, parce que finalement je finis plus ou moins par y arriver, mais en tout cas ouais, c'est tout un chemin effectivement d'épreuves, parce qu'il faut d'abord passer sur la corde, ouais, et y tenir.
Est-ce que dans votre travail l'un des enjeux ce serait de trouver justement dans ce rapport entre la parole et le cirque quelque chose que vous avez appelé donc la circographie, enfin quelque chose qui soit une écriture propre au cirque, c'est-à-dire que la danse a la chorégraphie, le théâtre a l'écriture théâtrale et la mise en scène, et il y aurait tout un champ à explorer dans le cirque qui serait la circographie, c'est bien ça?
Ouais, exactement. En fait, il n'y a pas de terme qui définit la mise en scène spécifique du cirque, donc ben, j'en ai inventé un, enfin, après sans que ce soit trop pompeux, enfin, mais... voilà, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de terme, c'est assez symptomatique. Ça veut dire quelque chose de ce champ qui est encore à explorer. Enfin, c'est ça qui est assez passionnant. Enfin, moi, je viens vraiment du milieu du cirque contemporain, donc j'ai fait les écoles de cirque contemporain, etc. Et dans ce milieu-là, enfin, moi, je suis vraiment l'enfant de cet état d'esprit où, en fait, le cirque classique paraît pas très intéressant. Enfin voilà, ça paraît ringard, etc. Et donc moi, j'ai vraiment fait tout ce chemin de me dire, mais en fait, peut-être pas. Et du coup, y retourner, et avoir vraiment des émotions. Enfin moi, maintenant, j'y retourne régulièrement. Je suis complètement fascinée et passionnée par ça. Et donc il y a, enfin en fait, ce qui est assez génial, c'est que il y a encore très peu de voilà, d'études, de réflexions sur la spécificité, effectivement.
De ce qu'apporte le cirque.
Voilà, de ce qu'apporte le cirque. Ouais. Ouais. Il y a peut-être un amalgame entre la notion de cirque et d'acrobatie. C'est-à-dire que quand on dit je fais du cirque, ça peut se résumer à je fais de l'acrobatie. Et le cirque n'est pas. Pour moi, après quelques temps de réflexion, et ça va sûrement évoluer, mais c'est réduit pas forcément à l'acrobatie. C'est un lieu, c'est une scène circulaire.
C'est un type d'espace particulier.
Voilà, c'est un type d'espace particulier. Ça, c'est effectivement tout un champ de réflexion. Mais en plus, c'est un programme de numéros de durée égale. Avec Monsieur Loyal au milieu, qui suscite des numéros qui suscitent des émotions très différentes. Il y a une espèce d'équilibre qui est quand même assez particulier à trouver entre ces émotions-là. Et donc, ça se réduit pas à l'acrobatie. C'est vraiment une composition. C'est une manière de composer. Donc, c'est un art à part entière.
Et vous le vivez comme ça, c'est-à-dire un spectacle comme Circus Remix, c'est quelque chose que vous composez vraiment, que vous écrivez de manière stricte.
Carrément, ouais. Ouais, complètement.
Où à la fois se mêlent donc l'acrobatie, la musique et tous les éléments.
Ouais. Ben c'est vrai que moi je suis vraiment passionnée par l'écriture. Enfin, il y a pas mal d'artistes qui travaillent beaucoup avec l'improvisation Et c'est super, mais c'est vraiment pas du tout mon cas. Enfin, voilà, ça m'arrive quelques fois pour lancer des idées, mais sinon, je suis passionnée par la structure en fait souterraine qui apparaît pas forcément en tant que spectateur quand on voit le spectacle. Enfin, d'ailleurs, c'est mieux si ça se voit pas. Mais c'est très fort en fait. Qu'est-ce qu'on choisit de mettre avant quoi, pourquoi, quelle durée ça a, le rythme. Ouais, c'est vraiment des choses.
Est-ce que c'est une manière aussi d'écrire ces spectacles, enfin de manière précise? C'est une façon pour vous de déjouer l'attente du public? En tout cas, vos spectacles jouent beaucoup avec l'attente du public, en tout cas. Avec, on attend un numéro, on pense que ça va être maintenant, en fait c'est pas maintenant, c'est décalé. Ouais. C'est quelque chose qui vous intéresse aussi, ce rapport-là au public?
Ouais, bah c'est sûr. En fait, j'écris en essayant de me mettre moi à la place de spectateur, enfin en tant que moi spectateur, qu'est-ce qui se passe pour moi. C'est pour ça que pour le coup c'était assez difficile, parce que le fait de faire un solo, ça demande d'être à l'intérieur, à l'extérieur aussi, donc c'était un peu compliqué. D'ailleurs, j'ai fait appel à une doublure à un moment pour qu'en fait on joue mon rôle et que moi je puisse être à l'extérieur. Une fille qui s'appelle Célia, d'ailleurs, qui est super. Et ça m'a permis vraiment d'y voir plus clair, disons. Enfin, d'essayer, en tout cas, d'y voir un peu plus clair. Mais oui, je me mets à la place du spectateur. J'essaye de déterminer, en fait, une sorte de même parcours émotionnel du spectateur. Après, je ne peux pas savoir ce que les gens vont ressentir. Mais en tout cas, je m'appuie sur ce que moi, je ressens. À tel moment, j'ai cette idée, j'ai cette pensée. Parce que j'ai l'impression... En tant que spectateur, on voit tout, en fait. On voit énormément de choses. Donc, on se dit, on a tout ce chemin de pensée, c'est-à-dire, il y a tel objet qui vient de descendre, ça va être là. Donc après, effectivement, le jeu, c'est de jouer avec cette attente-là et cette attention. Ouais.
Foutit et Chocolat vont entrer en scène. Que dis-je ? Jamais ils n'eussent commis cette faute d'entrer en scène et de s'exhiber au Music Hall. Ils vont entrer en piste, car entrer en piste n'est pas entrer en scène. C'est confondre une statue et une médaille, et je m'étonne que des clowns de notre époque acceptent d'évoluer de profil sur un plateau. Il semble que le danger de ne pas être drôle, ou le danger tout court, puisse foncer de n'importe où avec l'astuce du taureau et oblige les vedettes du cirque à d'innombrables volte-face espagnoles. L'obstacle de la rampe et de la fosse d'orchestre, la chausse-trappe des coulisses, le cul-de-sac de la toile du fond les desservent. J'ai toujours préféré voir au cirque les trois grands numéros modernes, Rastigny, Barbette, Colleano. La mort a pris celui des trois qui s'occupait le moins d'elle. La mort reste la partenaire favorite des deux autres. Barbette continue donc à lui tendre des pièges équivoques. Colleano a dansé avec elle sur le fil, les yeux dans les yeux. Oui, ces étoiles de l'équilibre et les clowns célèbres me paraissent voués aux arènes, à la piste ronde, entourés d'yeux, ne serait-ce que par le style de leur costume qui déjà les rapproche du toréador.
Maroussia Diaz-Verbeck, on entend la voix de Jean Cocteau, une archive de 1947 qui parle de la piste et du cirque. Comment vous recevez cette parole-là de Jean Cocteau sur le cirque?
Déjà, merci, parce que je la connaissais pas, je l'avais pas trouvée celle-là, non. Et une des premières archives que j'ai utilisées, c'est justement Cocteau. Il parle effectivement de l'importance de la piste. C'est vrai que moi, c'est la première fois que je fais un spectacle en circulaire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut passer autant de temps à faire du cirque sans passer par la piste. Et c'est plus fort que ce à quoi je m'attendais. Vraiment.
Vous avez été surprise par la piste.
Par l'importance de ce que ça modifie, en fait. Il y a un artiste qui s'appelle Joël Le Guilherme qui a vraiment pensé beaucoup la question du cercle, de cette architecture particulière. Et j'ai toujours trouvé ça super intéressant, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort, effectivement. En plus, là, je suis très proche du public. Donc, c'est vraiment... j'ai envie de dire, c'est différent, effectivement, de la scène, mais c'est quasiment opposé, ouais. Parce que, moi, en tout cas, sur une piste, ouais, on a vraiment la sensation d'être parmi les gens, d'être porté par... À un moment, il y a quelque chose qui se passe, d'être porté par les gens. Et elle est à la négative aussi, c'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est hyper impressionnant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échappatoire. Enfin, on est vraiment à nu, quoi.
Quand vous êtes en piste, là, dans le cadre de ce spectacle, Circus Remix ou des autres spectacles, vous vous sentez actrice ou pas du tout? Comédienne?
Alors,
vous jouez un rôle ou...
Pas vraiment. Après, par exemple, le mot rôle, non. Enfin, dans le sens. Mais après, je ne connais peut-être pas assez, assez bien le théâtre pour pouvoir en parler. Mais ce n'est pas comme ça du tout que je le vis. Même là, dans le spectacle, je fais du coup, plein de numéros différents. Donc, j'apparais, par exemple, avec des costumes différents et dans une sorte d'énergie un peu différente. Mais j'ai essayé toujours de rester dans une certaine partie de moi-même. C'est-à-dire ne pas chercher à faire un rôle extérieur ou une personnalité différente. Après, bien sûr, j'utilise quand même du jeu d'acteur. Parce que
il y a des passages...
Voilà, il y a forcément. Mais c'est vraiment au service de quelque chose que je suis ou que je pourrais être... et je viens en tant que Marussia, quoi. Enfin, voilà, ça reste vraiment moi, quoi. Et ça fait partie. C'est vraiment quelque chose aussi, qui vient du cirque. Le premier à faire du cirque, c'est, une des premières personnes à se mettre en représentation avec son vrai nom, avec sa profession. C'est un militaire à la base qui fait de l'équitation. Il change pas de nom, il change pas de costume. Il vient montrer ce qu'il sait faire en tant que militaire à cheval. C'est ça la base, quoi. Donc moi je me sens spontanément dans cette lignée-là quand même, ouais.
Donc dans l'écriture de cirque ou en tout cas dans la circographie que vous essayez d'inventer, il y a pas de place pour la fiction. En tout cas, elle se joue pas sous le prisme du jeu d'acteur.
C'est pas le but, ouais. C'est-à-dire que c'est pas le but. Il peut y avoir peut-être des mini moments de situation, etc. Mais c'est vraiment pas la direction, quoi.
Est-ce qu'il y aurait quelque chose de l'ordre du récit, d'écrire un récit par le cirque?
Alors, justement, récit, narratif, tout ça, c'est des termes qui collent pas. C'est des termes qui viennent justement de la mise en scène théâtrale et qui collent pas bien, en fait, pour moi. Par rapport au cirque. Après, moi, je pense que, en tout cas, plus personnellement, je serai claire avec... je serai jamais complètement claire avec ce qu'est le cirque, mais plus j'avancerai, plus le mélange, il pourra être intéressant avec les autres arts. Pour ne pas forcément se perdre. Ce qui se passe dans le cirque contemporain, pour moi, souvent, c'est que... Et ce que j'ai vécu, c'est qu'en fait, l'acrobatie, elle se met au service d'une mise en scène théâtrale avec, effectivement, des outils de pensée comme le personnage, le rôle, effectivement le récit, raconter une histoire, tout ça, c'est des termes qu'on entend beaucoup même dans le cirque contemporain et qui voilà, pour moi perdent un petit peu une direction du cirque, quoi. C'est la musique de la fin, non?
Oui, c'est la musique de la fin.
Je m'arrête là alors.
Merci Marussia Diaz-Verbeck.
Merci à vous.
Votre spectacle Circus Remix, c'est au festival La Route du Cirque, cirque avec un S, et ce sera le 22 et le 24 août prochain, puis en tournée un peu partout en France. On mettra les dates sur le site internet. Merci à Lila Bozès, Anaïs Isbert, Oriane Delacroix, Anne Toscan-Viudès et Anna-Livia Marchaison qui pensent et préparent cette émission avec moi. Aujourd'hui à la réalisation, c'était Lise Combe et avec au son Jean-Guilain-Meige. Pour réécouter la grande table d'été, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Ce soir à 18h20 dans Du Grain à Moudre, Antoine Genton et ses invités se poseront cette question: Cuba, le virage libéral ?